voix nue. Cette semaine, Caroline Brouet rencontre Jacques Weber. Ce soir, sa vie dans celle de Cyrano.
Bonsoir Jacques Weber.
Bonsoir.
Alors c'est le quatrième temps de cette série qui vous est consacrée à voix nue. Hier, nous nous sommes quittés sur le métier d'acteur. Nous avons parlé de la conception de votre métier, en long, en large, en travers, on peut dire. Et on s'est quitté sur ces mots autour de Cyrano. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ce rôle, ce personnage qui a fait votre renommée, que vous avez joué très longtemps, beaucoup, beaucoup, et puis vous lui avez même consacré un livre. Et j'aimerais partir d'une phrase que vous avez écrite dans ce livre, Cyrano, ma vie dans la sienne, pour commencer cette quatrième émission. Cyrano est passé dans ma vie, célèbre pour tous, inconnu pour chacun, soi-disant exemplaire, menteur et bretteur sans vergogne. C'est lui l'obsession majeure désormais, l'intrus si paradoxal de tous et de moi-même. Je l'ai joué, mis en scène, rejoué dans une adaptation intime de ma femme, j'ai interprété de guiche. Il m'a valu la reconnaissance, la perte de la voix, la dépression et l'insistance tenace et imperceptible d'une incompréhensible nostalgie de rien, de tout. Oui, tout et rien. Ce rôle vaut donc bien une émission entière, Jacques Weber.
Oui.
Alors commençons par le commencement. Comment avez-vous découvert le texte Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand?
Très simplement par l'amour inconsidéré de mon grand-père, je l'appelais mon faux grand-père, puisque c'était le quatrième mariage de cette fameuse grand-mère dont je vous ai déjà parlé. C'était un milliardaire qu'il était très facile un peu d'exploiter. Mais alors, c'était un homme qui ne faisait rien, et qui était très amoureux des arts, de Lamartine et de Cyrano. Il n'arrêtait pas de me parler de Cyrano. C'est le tout premier souvenir que j'ai. Et puis, je me rendais bien compte que ça faisait écho partout, Cyrano. Tout le monde connaissait, aimait Cyrano. Et je me souviens même de façon très confuse que tout le monde avait parlé à un moment donné d'une émission avec Daniel Sorano en disant Sorano avait joué presque en direct pour la télévision une version de Cyrano. Et tout le monde en parlait, les larmes dans les yeux, dans la voix. Enfin, ça avait été un événement télévisuel extrêmement important. Et puis moi, après, bon, tout ça était dans ma tête. Et puis j'ai été voir Cyrano au Français. C'était Jean Piat qui jouait, j'avais fait la queue longuement le dimanche matin, c'était à 2,50 francs ou 1,50 franc la place, je me souviens, et au Paradis, donc on voyait ça au Paradis, et j'étais tellement fou de cette pièce, fou de ses grands élans, fou de ce que maintenant je renie un peu d'ailleurs de son côté cocarde, de ce côté flamboyant, que je me suis même précipité en bas. On descendait à l'orchestre pour aller encore et encore rappeler Jean-Pierre. Et ça durait, mais ça, je me souviens que ça durait, je sais pas, 35 minutes. Les rappels étaient absolument invraisemblables, comme une diva, quoi, comme la Callas. Et voilà, ça a été un souvenir. Et à partir de là, c'est tout à fait amusant. Quand tout ça, je vous parle de ça, c'était très jeune. Et la première chose que je dis lorsque je recommence l'art dramatique, un jour, je serai celui qui jouera Cyrano, c'est sûr et faux. Et lorsque j'ai un théâtre, que je suis donc nommé au théâtre du 8e à Lyon, je dis, je monte Cyrano pour l'ouverture. Et là, je tombe sur un os, puisque les droits sont préemptés encore par la Comédie Française, ils ne sont pas encore libérés. Et je me souviens, je vais voir Dux pour essayer d'avoir une autorisation. Pierre Dux, qui était à l'époque, il me dit, oh, écoutez, il y a d'autres choses à faire que Cyrano quand même. Hein. Vous n'allez pas comme ça, c'est pas de votre âge, me dit-il. Ce qui était assez amusant, plutôt sympathique de sa part. Et bref, j'ai attendu. Et puis, à un moment donné, j'ai compris que les droits allaient être libérés, donc en 83, je crois, à une date extrêmement précise. Et je dis à des producteurs, voilà, le coup à faire, c'est le jour où les droits tombent, on est sur scène, on est en train de le jouer, mais c'est moi qui le joue. Ils ont tous trouvé l'idée merveilleuse. J'ai failli être doublé par certains très grands noms, l'idée avait été reprise. Je peux même dire, et ça ne me gêne pas parce que je l'adore et je le trouve merveilleux, Belmondo a fait des premiers essais de Cyrano, il l'a rejoué plus tard, bien plus tard, et il a dit non, il s'est pas encore senti prêt pour ça, à Mogador. Et puis, finalement, bon an, mal an, j'ai réussi à faire ce que j'avais dit, c'est-à-dire que c'est moi qui ai créé Cyrano, donc au Théâtre Mogador. Alors après, il fallait trouver un metteur en scène. Et voilà. Et là, c'était extrêmement amusant parce que Savary, je l'adorais. Et donc, un repas est organisé. Mais moi, je pensais que lui, c'était un homme de faconde, pas timide du tout. Or, il est comme un gamin devant moi. Pourquoi, j'en sais rien. Et puis moi, alors, n'en parlons pas, pareil. Et donc, il y a deux gros timides, comme dirait Jacques Brel, face à face de l'autre. Et ça commence comme ça. Savary me dit, chouchou, j'ai relu 27 fois la pièce. Alors moi, quand on me dit « j'ai relu 27 fois la pièce », déjà, je me méfie, parce que, à mon avis, c'est pas vrai. C'est forcément pas vrai. On ne relit jamais 27 fois une pièce, c'est faux. Surtout 27, ça m'a fait rire. Et puis bon, donc je le questionne, je me rends compte qu'il baratine comme d'habitude, mais c'est pas grave, c'est pas important tout ça, en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas important de lire ou pas. Enfin, bref. Et puis, à un moment, il me dit « mais moi, j'ai, chouchou, le grand problème de Cyrano, c'est qu'il faut trouver un nain pour jouer le rôle du nez. » Et là, je panique, j'ai pas compris que c'était une énorme blague à la Savary. Si c'est pas possible, je peux pas et tout. Donc je panique, j'appelle les producteurs, je dis, écoutez, moi j'adore ce mec, mais enfin, s'il veut foutre le rôle du nez. Et puis, bah, c'était une énorme blague de Savary, comme il est très capable d'en faire beaucoup. Et ça a démarré comme ça, ça a démarré dans cette espèce de chose joviale, très, c'est pas un esprit de campagne, je sais pas comment dire, quoi. C'était très, c'était sympathique. Il y avait des poules, des oies sur scène. Il y avait une espèce de faconde un peu rabelaisienne, comme ça, qu'avait merveilleusement, Jérôme. Et surtout, et je crois que c'est ça le plus important pour Cyrano, de la naïveté. Et je pense que c'est vachement bien d'être emmené par un homme qui dit pas hein, « c'est génial, c'est merveilleux, c'est la plus belle pièce du monde » parce que tout ça est d'une bêtise absolument incroyable. Mais je pense que c'est la naïveté qui prime. Et je pense que c'est ce lien très bizarre d'enfance, de mensonge d'enfant qui nous touche dans Cyrano. Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme le conte aussi. Et à tel point que l'on accepte dans Cyrano de dire qu'on adore ce héros, lors même, et c'est sans doute ça que j'essaie d'exprimer plutôt clairement d'ailleurs dans le texte que vous venez de citer, c'est que on accepte que finalement on accepte ce type, lors même qu'il est l'expression d'un mensonge continu. Et là, ça se renvoie peut-être à ce que j'ai dit de moi-même, puisque j'ai toujours eu cette sensation, quand je vous disais la beauté, mais avec une chemise, c'est exactement ça. Il y a un nez quelque part qui se balade, et je crois que Cyrano a le charme absolu d'un mensonge d'enfant. Ouais, je crois que c'est ça qui fait que cette pièce nous touche tant. Voilà.
On disait hier, enfin je vous demandais si jouer à un moment ou à un autre, c'était vivre d'autres vies que la sienne. Vous répondiez non, bien sûr. En même temps, est-ce que avec Cyrano, vous vous êtes identifié encore un peu plus que ce que vous dites là? Est-ce qu'à un moment, parce qu'on va revenir au nombre de fois où vous l'avez joué, vous êtes devenu Cyrano?
Non, je crois que alors c'est très intéressant parce que Jean-Marc Roberts, qui avait édité le premier livre Cyrano, Ma vie dans la sienne, c'était un homme formidable, c'était un éditeur formidable, et c'est lui qui a trouvé le titre. Et c'est ni plus, je dis bien ni plus, ni moins que ce qu'il a écrit, c'est-à-dire Ma vie dans la sienne. Mais ça ne veut pas dire qu'on devient Cyrano. C'est qu'il y avait beaucoup de lui qui se baladait en moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux truc autour duquel tout le monde tourne? Je suis devenu tel personnage, je suis le personnage, je ne suis pas le personnage, tout ça. Je pense vraiment que c'est tellement inextricable et complexe que on ne peut pas donner à ça une réponse sûre. Ce qui est certain, c'est que ce que moi je pense surtout, et qu'on oublie de dire trop souvent, c'est que lorsque vous jouez un rôle comme Cyrano, c'est d'abord un rendez-vous physique. Mais je parle physique, physiologique et physique. Vous êtes devant 1700 personnes, enfin c'était mon cas à Mogador, vous êtes sans micro, il faut une force mais incroyable physiquement. C'est un effort sportif considérable, répété tous les soirs, et même moi, c'est ce qui m'a fait perdre ma voix, d'ailleurs, 7 fois, puisque je jouais en matinée, soirée, samedi, et je jouais le dimanche. Donc je peux vous dire que ça entame forcément quelqu'un, et c'est là où ça m'intéresse. C'est-à-dire que c'est par le rapport purement physique, je vais presque dire exprès, un mot qui est décalé, sportif, que ça devient un peu vous-même. Le corps est sans doute beaucoup plus important dans cette histoire-là. Et est-ce que Monsieur Federer, est-ce que le tennis a fait partie de votre vie? Oui, ah oui, ça oui, ça oui, c'est à 80%. Voilà. C'est quelque chose que de cet ordre-là, sans me comparer à Federer, bien sûr.
Mais c'est une performance. Voilà, voilà. D'autant que vous l'avez joué 7 jours par semaine. Mmh. Quelques 500.
Ouais, oui, c'est assez considérable. Et puis après, ça a fait son chemin. Alors pourquoi c'est resté quand même? Bah, naturellement, d'abord parce que en exécutant.
Un triomphe. Hein.
Voilà. En exécutant un rêve d'enfant, j'ai triomphé. Mais en même temps, avec une conscience tout à fait exacte, qu'il y avait quelque chose là-dedans, une fois de plus, qui me poursuivait et qui m'avait frappé tant enfant, c'est la dissonance qui existe en moi, quoi. Je crois, enfin bon, j'ai pas envie de mettre un divan dans les studios de France Culture, mais enfin il y a un peu de ça quand même. Et c'est vrai que oui, il s'agit d'une dissonance, Cyrano, et que tout ça me faisait bizarre, quoi, cette espèce de. Et alors moi j'avais aussi une façon, c'était sans doute la première fois qu'il était joué avec si jeune et si enthousiaste. Et ça changeait tout. Parfois, j'en avais vu des très belles représentations, un tout petit peu paternaliste, un tout petit peu donneur de leçons. Mais comment cet homme peut donner des leçons, puisqu'il est le champion quasiment faustien de la compromission absolue, finalement. Lui qui dit non merci, non merci, non merci. En même temps, il conclut un pacte diabolique avec Christian. L'échange de la beauté et de l'esprit, c'est une des choses les plus mensongères qui soient et les plus diaboliques, quoi. Et c'est là-dessus que tout fonctionne dans Cyrano, pas autre chose. Et c'est là-dessus aussi que tout se casse la gueule. Mais ce cassage de gueule, c'est ce qui nous bouleverse au 5e acte. Simplement, on oublie une chose. La pièce est au 19e et je pense qu'un mec qui écrirait comme ça maintenant au 21e, il aurait des soucis avec l'explosion nécessaire de la place de la femme dans la société. Pourquoi? Parce que au dernier acte, il n'arrête pas de se plaindre, il nous fait pleurer, dans l'ignorance absolue du drame de cette femme dont il est l'entier responsable. Pas un moment, il se préoccupe d'elle, il dit simplement « mettez un petit voile de deuil pour moi, et puis je fais ceci, et puis je vais... » Il se plaint, mais comme il est misérable. Même si c'est bien dit, mais c'est misérable. Enfin, elle, rien, pas. Elle est bonne sœur, tais-toi. Elle a cru aimer un mec, elle s'est gourée. Après, elle se rend compte 15 ans après que c'était un autre qu'elle aimait. Elle est chez les bonnes sœurs. Elle baisse plus. Elle ne peut plus regarder un homme. Alors même que son amour est très, très physique, puisqu'elle a dit dès le premier regard, j'étais dingue de ce cas. Et après, elle a eu ce bonheur inouï d'avoir non seulement la relation physique amoureuse, mais aussi la relation de l'esprit. Donc c'est énorme. Et il n'y a plus rien. Tout était un mensonge et tout était dédoublé. Il n'y avait plus d'homme, en fait. Il y avait un pacte. C'est un pacte qui l'a séduit, c'est pas un homme. Ça, c'est du tragique. Ça aurait été beau à jouer. Eh ben, c'est tout le contraire. On voit un mec qui... Enfin, j'exagère beaucoup, mais qui pleurniche, quoi. Qui pleurniche pendant tout un acte. Il faut quand même le dire. Enfin, moi, ça m'intéresse dans ce sens-là, ce qui ne m'a pas empêché, moi-même, de pleurnicher. Quand je le répétais, et c'est là où j'ai adoré Savary, qui m'a dit « Chouchou, c'est pas... » Quand on meurt, c'est pas le mort qui pleurniche, ce sont les autres. Ça m'a beaucoup marqué. Voilà.
Jacques Weber, 500 représentations, peu de choses près, disons, en tous les cas, c'est énorme pour une seule et même pièce. Effectivement, performance physique, vous le rappeliez, mais aussi performance d'acteur au sens où, quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire le spectateur, on se demande comment, et là on revient au métier d'acteur, comment vous pouvez arriver à jouer de la même manière, avec la même énergie, avec le même enthousiasme, avec la même passion et avec la même fraîcheur. Je parle à 499e, allez. Est-ce qu'on change? Est-ce que le jeu évolue? Comment faites-vous pour retrouver toujours cette première fois quand on le joue aussi longtemps? Il y a peu de pièces qui ont été jouées aussi longtemps. Ionesco, bien sûr. Mais justement, on cite toujours ces pièces.
Alors, oui, j'ai envie
Pensons aux acteurs.
D'abord, il faut savoir que moi, je suis d'une époque, quand je commence, C'est tout à fait fréquent que les acteurs jouent 400 fois, 500 fois. Perrier était le champion du monde, ça, Paul Meurice, enfin, je peux vous en citer beaucoup, beaucoup, puisque les représentations du théâtre privé, entre autres, étaient extrêmement longues. Par contre, ce qui est certain, c'est que oui, ça évolue, oui, la fatigue s'inscrit, et oui, elle peut être ou catastrophique, ou positive, ou les deux à la fois. C'est ce qui m'est arrivé, c'est les deux à la fois, puisque d'un côté, ma voix, d'abord, a été fatiguée. C'est mon ORL qui me le rappelle toujours. Il me dit, tu dis toujours que c'était psychique, mais elle était aussi légèrement... Il y avait les cordes vocales qui commençaient à en prendre un coup. Et puis aussi, il y a eu ce qu'on appelle un retrait psychique de la voix. Il y a une telle appréhension que la voix s'est bloquée. Donc ça, c'est l'aspect catastrophique. Mais de cet aspect catastrophique, il a fallu que je m'en sorte. Comme dirait l'autre, la résilience, je sais pas quoi, enfin, d'un mal, on fait du bien, et il a fallu que je trouve d'autres moyens. J'avais d'énormes moyens vocaux, entre autres, et il a fallu que j'aille chercher tout à fait ailleurs la force et l'énergie de tout ça. Alors vraiment, oui, ça vous enrichit beaucoup parce que vous travaillez sur d'autres recherches et vous réveillez dans votre corps d'autres choses, quoi, voilà. Voilà. Et d'autre part, donc, ça peut aussi, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est pas toujours le cas, mais pour ce qui me concerne, ça a modifié aussi l'interprétation de Cyrano, puisque dès le départ, c'était un être fragilisé de par le fait, par exemple, parlons très simplement, qu'il ne pouvait pas parler fort. Ça change tout pour un individu. Et on dit toujours que lorsqu'on veut être très très fort, enfin qu'il y a un système dans les politiques, c'est de tous ces champions crétins de la communication qui aident les politiques, il y en a quand même certains qui leur disent que plus on parle bas, plus on sollicite l'attention. Je trouve ça très très passionnant, le fait d'être condamné à parler bas qui vous rend d'autant plus fort. Enfin, il y a quelque chose de... Parce qu'on se dit, attends, on a envie de s'approcher de vous, quoi. Et ça, c'était donc une nouvelle relation de séduction également, puisqu'il s'agit quand même de ça au théâtre, entre Cyrano et le public. Donc oui, il y avait quelque chose qui a bougé beaucoup, beaucoup sur un an et demi, deux ans même.
Vous vous souvenez de la dernière ?
Ah oui, bah alors là, je peux vous faire une émission entière sur la dernière, mais enfin, en deux mots, faut quand même que je raconte cette anecdote qui est tout à fait, voilà. Normalement, vous saviez, à l'époque, on recevait des bouquets de fleurs, des cadeaux, tout ce qu'on appelle des petits bleus, des petits télégrammes, tout ça, comme à la première. Et j'arrive à la dernière et je vois rien du tout. Bah, je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très gentil. Voilà, je me dis, tiens, c'est curieux, mais enfin bon. Et au salut, normalement, je devais faire deux pas pour saluer un peu détaché de la ligne du salut. Et au moment où je salue et que je fais ces deux pas, le rideau tombe derrière moi brutalement. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là-dessus, le rideau se relève, le plateau est vide. Et là, des fleurs tombent des cintres. Chacun de mes partenaires arrive avec d'énormes bouquets de fleurs de tous les côtés de la scène. Les ouvreuses arrivent par la salle avec des bouquets de violettes, enfin un truc, mais à pleurer, à tel point d'ailleurs que il y avait tellement de fleurs que je me souviens avoir vu mon cercueil. Ça faisait un tombereau de fleurs devant moi. Bon, alors c'est pas fini, donc je sais plus où me mettre, imaginez, et là, ça c'est une histoire incroyable. Je sais plus quoi faire, ça arrête pas de rappeler les gens debout, vla, 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 comme ça, je dis merde, qu'est-ce que je vais faire? Je pleure, je ris, voilà, bon. Et à un moment donné, je dis, je sais pas pourquoi, allez savoir ça aussi, c'est très amusant. Pourquoi ça me vient? Je dis, je vais faire comme Johnny Hallyday.
C'est-à-dire?
Moi, j'étais un fan de Johnny Hallyday. Je suis toujours, d'ailleurs. Et j'enlève mon nez et je jette dans la salle. Alors ça me fait rire. Et là-dessus, qui a reçu mon nez? Alors quand on sait la suite de l'histoire, c'est assez étonnant. Il est tombé sur les genoux de Gérard Depardieu. Ça s'invente pas des trucs comme ça. Et à partir de là, après, ben, vous avez su l'histoire, parce que c'est lui, et je tiens à dire que c'est parce que c'était lui que j'ai accepté de jouer de Guiche, même avec toute l'admiration que j'ai pour Rapneau et le projet qu'il m'avait proposé, mais jamais j'aurais fait ça si ça avait été un autre que Depardieu.
Cyrano est devenu un film de Jean-Paul Rapneau en 1990, mais il aurait dû y avoir un film avant le Rapneau.
Oui,
Jacques
alors,
Weber,
c'est...
une histoire que vous racontez dans votre...
Oui, livre. Je peux en parler maintenant. Alors, ça me gêne toujours un peu, parce que ça fait un type qui dit, gna gna gna. Mais bon, la vérité comme ça, c'est tout simple, c'est que, il y avait un très grand agent à l'époque, qui était Gérard Lebovici, qui faisait peur à tout le monde, qui était une très grande puissance, très grande intelligence, qui était aussi très marqué politiquement. Il défendait les Brigades Rouges, Maspero et compagnie. Enfin, c'était un type tout à fait étonnant. Et il m'avait appelé en me disant « J'ai vu hier Cyrano », alors que j'étais dans son agence. C'était chez Serge Rousseau. Et « J'ai vu Cyrano hier, vous êtes formidable, j'en ai vu une quinzaine dans ma vie, c'est vous le mieux de très loin, il faut qu'on se voit, faut qu'on se voit. » Mon agent, Serge Rousseau, qui était un malin, dit « Écoute, c'est formidable, parce que tu sais que c'est pas un type, c'est pas un tendre, c'est pas un gentil. S'il a dit ça, c'est que vraiment... Enfin, bref, je raccourcis. On se voit, il me propose de faire le film. Et vous vous rendez compte, donc je devais jouer, en effet, le rôle de Cyrano. Il dit cette chose qui m'a frappé. Il me dit deux choses qui m'ont frappé. Il me dit, naturellement, vous seriez mieux, de toute façon, dans 10 ans, mais dans 10 ans, il y a des cons, on l'aurait fait à notre place. Donc, faut le faire maintenant. Je dis, bon, très bien. Et il me dit, d'autre part, on n'a pas besoin de vedette, la vedette, c'est Cyrano. Ça m'a marqué. Bon, et puis, bon, le temps passe, et un jour, recoup de fil, oui, c'est Gérard Lesboeufs à l'appareil, ça y est, on fait le film. Alors moi, je dis, mais est-ce que je peux déboucher le champagne avec mes copains, etc. Il dit, mais écoutez, vous m'embêtez, faites ce que vous voulez, je vous dis qu'on le fait, on le fait. Bon, il était un peu comme ça, rugueux. Bref, je fais une fiesta extraordinaire avec Viré, Balmain et tout ça, en croyant que je vais faire le rôle de Cyrano au cinéma. Et le lendemain matin, on apprend par la télévision, la radio et tout, que ce producteur avait été assassiné l'après-midi dans le parking Foch. Alors voilà, bon, à partir de là... Il a fallu deux, trois ans, je crois, je sais plus combien. Enfin, assez, parce que c'est envers 89 qu'on fait le film. Et puis, c'est normal, c'est tout à fait normal. Je n'ai absolument aucun regret. Quelqu'un d'autre reprend le film, le remonte, et c'est avec Depardieu, parce que Depardieu, à cette époque-là, est le roi d'entre nous, Depardieu, et dit, ça, je le fais. Et puis, il n'y a rien à dire. Ça s'accepte quand c'est un aussi grand acteur que ça.
Voilà. Oui, Cyrano, Depardieu en Cyrano, vous l'acceptez?
Ah, totalement, parce que je l'ai toujours dit, et si ma femme m'entend, elle va encore dire que je fais un trop gros commentaire. Pendant, je trouve que c'est un homme de génie. C'est un homme de génie, et que le génie, on laisse passer. Laissez passer.
Alors, Jacques Weber, comment on sort d'un tel personnage qu'on a autant joué? Qu'est-ce qui reste? Quelle est la trace? Quelle est l'empreinte? Maintenant, les années ont passé, depuis que vous l'avez joué, depuis que vous l'avez mis en scène, vous lui avez consacré un livre. Mais qu'est-ce qui reste de Cyrano en vous?
Alors, je vais dire très nettement, la certitude joyeuse, pleine, sereine également, que un jour, j'ai vraiment bien joué un rôle. Ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, je suis sûr que c'est abouti. On ne peut pas créer une unanimité comme ça sans qu'il y ait vraiment un aboutissement absolu et total. Et ça, c'est une chose qui est très réconfortante. J'aurais au moins fait quelque chose de voilà. C'est ce que j'ai dans ma tête. Je nie pas ça. Moi, j'ai deux convictions. C'est que j'ai fait une famille aboutie. J'ai abouti je continue à aboutir, plus exactement, à un amour avec ma femme. Et puis Cyrano, voilà, ça c'est pour moi, c'est très 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 simple et très très net.
Et les deux se relient, puisque je crois que le premier mot de Cyrano, c'est coquin.
Ouais, coquin.
Et coquin, ça a été le premier mot que votre fils a prononcé.
C'est une chose absolument bouleversante, puisque comme tous les matins, je faisais coquin, 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 coquin. Et donc, mon fils n'a jamais dit papa, le premier mot qu'il avait, c'est coquin. On a compris que c'était coquin. Ça, c'est une pure merveille. Donc voilà, ça, c'est important. Par contre, il reste de ce personnage parce que je le rencontre très rarement de la part des autres. Beaucoup de gens l'ont joué, j'en ai apprécié certains, j'en ai moins apprécié d'autres, mais je n'ai jamais entendu chez eux cette chose, il y a une critique. J'ai une critique assez dure sur le personnage que je n'entends pas chez d'autres. C'est ce qui reste profondément. C'est pas une critique définitive et c'est un salaud. C'est aussi comme nous tous. C'est aussi un type pas bien.
C'est un être humain.
C'est un être humain. Vous avez tout dit. Voilà, c'est un être humain. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je sens ça chez Rostand. Dans son bordel noir, il y a un moment où son verbe affouille complètement. Il se rend compte qu'il met trop d'adjectifs partout. Il dit « Ah, si loin des carquois, des torches et des flèches, on se sauvait un peu vers les choses plus fraîches. » Il se parle à lui-même. Il faudrait un peu que je sois un peu plus simple. C'est l'époque du Burroi, c'est l'époque de Jarry. Enfin, il y a tout ça dont il faut penser. Et je pense que il y a une conscience chez lui. C'est comme avec l'Aiglon. C'est un maniaco-dépressif, cette histoire d'Aiglon. Il fait la peau à Napoléon pendant 6 actes. Tout le monde s'est gouré. Tout le monde a cru que c'était l'apologie, Napoléon et tout ça. Mais si vous regardez de près, cette pièce est très intéressante. D'abord, il y a un truc de la part de Rostand qui est tout à fait merveilleuse et qui correspond sans doute à ses amours tourmentés avec Sarah Bernard ou d'autres, d'ailleurs avec la Rosemonde Gérard. Mais c'est drôle quand il dit, quand l'Aiglon, qu'en fait, on se rend compte qu'il y a 6 femmes ou 6, je ne sais plus combien de femmes, qui sont totalement folles amoureuses de l'Aiglon. C'est-à-dire un être totalement fragile, blanchâtre, enfin, qui n'existe pas, qui n'existe que par l'image du père. Et en même temps, ces femmes disent « Mais nous, les génies, on n'en a rien à foutre. Napoléon, on n'en a rien à foutre. Je ne vais pas être amoureuse d'un génie, je suis amoureuse d'un homme. » Mais comme par hasard, l'homme dont elles sont amoureuses est un type extrêmement frêle et fragile. Enfin, tout ça sont des contradictions qui autorisent à ce qu'on puisse s'amuser à lire un peu plus profondément Rostand. Voilà, c'est tout ce que je...
Qu'on étudie aujourd'hui
au collège. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on l'étudie bien.
Voilà. On va vérifier. On va vous emmener dans les classes. On en parlera d'ailleurs demain de cette transmission peut-être importante pour vous, Jacques Weber. Juste pour terminer cette émission, je vous demandais hier si vous vous souveniez du texte ou de passage du texte. Oui ou non, alors aujourd'hui? Est-ce que vous avez révisé? Est-ce que vous nous feriez la tirade des non-merci pour terminer?
Ah oui, je me souviens vaguement. Mais est-ce que vous pourriez mettre le ton? Si c'est les profs de français, c'est extraordinaire. Non, mais comme ça, c'est intéressant parce qu'on est plus près du sens quand on dit « et que faudrait-il faire ?» Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force, non merci. Dédier comme tous ils le font. Des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître enfin un sourire qui ne soit pas sinistre, non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale, non merci, je vais couper parce que sinon on en a plus d'heure. Et à la fin il dit calculer, avoir peur, être blême. Oh merci, je m'emporte. Aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter. Non, merci, non, merci, non, merci. Et là, écoutez bien. J'adore ce vers pour une chose. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre. Si on réfléchit bien, qu'est-ce que vient foutre ce mot passer? J'ai l'élégance de penser que Rostand n'a pas mis ça pour faire 2 pieds de plus quand même. Ça, c'est des conneries quand on réfléchit. Et je trouve que c'est ça qui est très beau. Regardez, il dit d'abord chanter, rêver, rire, c'est-à-dire que ça, c'est de l'ordre du rêve et de l'inexprimable et de la musique. Passer. Et tac, il y a une vie qui passe. Et c'est là où il dit être seul, être libre. C'est-à-dire que c'est après ce passage de la vie qu'on dit être seul. C'est une... Et je pense qu'il y a une question là-dedans, parce que je ne crois pas qu'on puisse dire ne pas monter bien ou peut-être mais tout seul, c'est une erreur totale. C'est une erreur tragique de dire ça. Moi, je pense le contraire. Quand les gens disent, c'est merveilleux, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul, mais je pense que c'est une erreur totale. Nous ne sommes jamais seuls à être seuls. Jamais, jamais. On ne fait rien si on est seul. Et là, il y a quelque chose qui est très beau dans le passé. Être seul, être libre.
Merci Jacques Weber.
Merci à vous.
À demain pour la dernière.
À demain, ouais.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Caroline Brouet avec Jacques Weber. À voix nue, réalisation Vanessa Nadjar, prise de son Nicolas Mathias, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.